Père céleste, tu es béni de toute éternité. Nous avons entendu et nous sommes d'accord avec le fait que tu es le Dieu souverain. Tu règnes et tu maîtrises le temps et les circonstances. Tu es le Dieu qui a cheminé avec le peuple d'Israël, le Dieu qui chemine avec nous aujourd'hui, le Dieu qui écrit notre histoire. Nous voulons te rendre gloire, nous présenter ce matin devant toi, devant ta parole, avec toi Seigneur, dans l'écoute de ta parole, pour Seigneur recevoir notre part d'aujourd'hui. Seigneur, engage-nous avec toi, chaque jour de notre vie, au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, je voulais que nous démarrions cette année avec quelque chose de soft, peut-être de tout gentil, mais quelque chose de vraiment qui peut nous permettre de tenir la route tout au long de l'année. Alors, je vais proposer que nous puissions lire dans le livre de Deutéronome, au chapitre 6, et nous allons lire les 6 premiers versets de Deutéronome, chapitre 6. Tant que j'ai mon texte devant mes yeux quand même, parce que c'est intéressant de l'avoir devant mes yeux. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et les filles et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Alors, le livre de Deutéronome, le dernier livre du Pentateuque, un mot très intéressant, qui parle de 5 premiers livres de la Bible. Les 5 premiers livres de la Bible qui sont les livres écrits par Moïse, les livres qui forment la base essentielle de la Torah juive, qui forme la loi en réalité pour nous. 5 livres essentiels, et ce 5e livre est le livre qui clôture un peu toute cette aventure, cette démarche de Dieu avec le peuple en le libérant de l'esclavage de l'Égypte. En réalité, ces livres clôturent tout un travail qui concerne le plan du salut qui commence déjà depuis le livre de la Genèse. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre, mais dans ce livre, on voit que Dieu rassemble son peuple pour la dernière fois. Dieu veut rappeler à son peuple. C'est un peuple qui a été dans le désert. Et dans le désert, il y a eu un événement essentiel, un événement fondamental, je dirais même fondateur de la nation juive. C'est dans le désert que Dieu a donné la loi. C'est la loi qui est l'événement fondateur de la nation juive. Et Dieu a donné la loi dans le désert. 40 ans se sont passés. Le peuple a appris à se frotter avec la loi. Il a appris à vivre avec la loi, avec des hauts et des bas. Et ici, ils sont devant la porte de la terre promise. Ils vont y accéder. Ils vont pouvoir entrer maintenant dans la terre promise. Et Dieu, par l'entremise de Moïse, va encore leur rappeler les bases essentielles de la loi, le sens véritable de tout ce qui s'est passé dans le désert, pourquoi ça s'est passé comme ça, et quelle est la finalité de Dieu, quel est le sens de la loi. Et là, Dieu se met donc à leur parler. et à leur présenter les réalités auxquelles ils seront confrontés, en les exhortant, en les instruisant sur comment ils doivent se comporter, comment ils doivent vivre dans la terre promise. Le livre de la Deutéronome, c'est un livre très important, pas seulement par rapport à ce qui se passe avec le passage du peuple d'Israël qui est passé dans le désert et qui maintenant entre dans la terre promise. C'est pas seulement important pour comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Ce livre est un livre important même pour comprendre toute la pensée de Dieu au niveau du Pentateuch, mais aussi de comprendre la suite. Vous savez que c'est un livre qui est aussi cité énormément dans le Nouveau Testament. Et Jésus en parle aussi à plusieurs reprises. Mais ce matin, à travers le texte que nous venons de lire ce matin, je voudrais vraiment que nous puissions je voudrais vous inviter vraiment à prendre avec moi un engagement pour cette année. Voilà l'engagement que je vous demande de prendre avec moi. C'est que cette année que nous soyons, nous nous engageons tous à écouter Dieu. À écouter Dieu par-dessus toutes les autres voix que nous entendons. Voyez, j'ai dit, c'est quelque chose de tout gentil. Écouter Dieu, c'est quand même facile. On a tous, heureusement, des oreilles. Et quand on n'a pas des oreilles, en général, c'est très dur, n'est-ce pas? Imaginez toutes ces personnes qui doivent régler leur appareil auditif. C'est pas évident pour pouvoir entendre tout ce qui se dit, tout ce qui se chuchote autour de soi. Quand on ne sait pas entendre, on est, il faut le dire, handicapé en quelque sorte. Mais nous avons la grâce de pouvoir écouter Dieu. Et ce matin, ce que j'aimerais nous engager tous, c'est cela, être à l'écoute de Dieu. Au cœur de ce texte se trouve ce verset 4. Ce verset 4, tu peux le montrer, qui est véritablement un verset important. Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Ce verset, dans la tradition de Juif, dans le judaïsme, fait partie de la prière que le Juif doit connaître et doit pouvoir réciter. C'est un verset qu'on l'appelle le Shema Israël. Ce verset, eh bien, il est important pour les Israélites, mais pas seulement pour eux. Il est aussi important pour nous, puisque vous connaissez, nous sommes aujourd'hui, nous continuons l'œuvre de Dieu. Nous sommes les continuateurs de ce qui s'est passé à cette époque. C'était pour nous que toutes ces choses sont passées. Ce texte s'adresse aussi à nous. Le Dieu de l'Ancien Testament, celui qui s'est pleinement révélé avec le peuple d'Israël, c'est ce Dieu qui s'est fait connaître à nous à travers Jésus-Christ. C'est le seul Dieu vivant. Il n'y en a pas d'autre. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. C'est de lui que viennent ses lois, ses commandements qui nous ont été transmis et que Jésus est venu, non pas pour abolir, mais pour accomplir. René a dit quelque chose, et je suis très content parce que, en le disant, je ne vais plus faire des commentaires là-dessus. René a dit, ce Dieu est un Dieu extraordinaire parce que c'est un Dieu qui est maître des temps et des circonstances. C'est un Dieu qui, dans la situation inconfortable dans laquelle se trouvait Daniel, était la seule boussole pour Daniel, la seule référence qui permettait à Daniel de se dire quand tout fuit, lui est là. Dieu a été aussi la boussole, la référence du peuple d'Israël au milieu du désert. Il va jusqu'à affirmer, votre pied n'a pas manqué de chaussures, vos vêtements, vous n'avez pas manqué de vêtements. J'ai pris soin de vous. Au milieu du désert, vous savez, vous pouvez imaginer ce qu'est le désert. Un endroit où on manque de tout. On manque des choses essentielles comme l'eau. Mais Dieu a pris soin de son peuple. Il a pourvu aux différents besoins de son peuple. Ce matin, peut-être, avant de continuer, peut-être juste vous rappeler cela. Dieu est maître de temps et de circonstances. Dieu, même dans nos déserts, chemine avec nous, trouve nos solutions. Ce matin, on commence 2014 avec sûrement et certainement avec des questions, avec des interrogations. Après tout, il ne fait pas un an de distance entre le 31 décembre 2013 et le 1er janvier 2014. Il n'y a que quelques heures. Quelques heures qui ne suffisent pas pour effacer les différents drames, les problèmes, les soucis de 2013. Quelques heures qui ne suffisent pas pour effacer toutes les interrogations que nous avons dans nos têtes et dans nos cœurs. Mais j'aimerais ce matin, de la même façon que le peuple d'Israël se trouve en face de la terre promise qu'il va prendre en possession, de la même façon que ce peuple est là devant, il va entrer dans la terre promise avec un Dieu qui dit « Je serai avec toi ». Là aussi où tu vas, je serai avec toi. Je ne t'envoie pas là en disant « Va-t'en et moi je reste ici, je suis très bien par ici ». Non, on va aller ensemble, on va cheminer. Et l'histoire biblique montrera que Dieu sera toujours avec son peuple, même quand son peuple sera infidèle. Ce matin, j'aimerais vous dire que le Seigneur sera avec toi, avec chacun de nous, avec tous ceux qui espèrent en lui. Il sera là pour traverser l'année avec nous, pour partager nos drames, nos souffrances, pour trouver des solutions à nos problèmes, pour rencontrer nos problèmes de santé, pouvoir apporter de la restauration, des solutions. Il sera là pour se battre à nos côtés. Il sera là pour lutter avec nous, avec ce qui ne va pas en nous. Il sera là pour encore sauver, encore nous utiliser pour le servir et pour aussi servir les autres, être aussi un instrument, un témoin pour gagner des âmes. Le Seigneur sera avec nous parce qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'il est le Roi des Rois, le Seigneur. Et j'aimerais vraiment que nous puissions simplement nous arrêter sur cette idée. Si, pour moi, Dieu n'est pas un grand Dieu, alors, je traverserai avec lui de 2014 en portant mes problèmes moi-même. Vous connaissez cette histoire de cette personne qui porte un lourd fardeau et qui voit un camionneur s'arrêter en lui disant « Ben, écoutez, montez comme ça votre fardeau, ben, vous le déposez dans le camion et vous asseyez, comme ça vous n'avez plus de fardeau sur vous. » Et qui va monter dans le camion en disant « Merci, merci, merci » et continuer à porter son fardeau dans le camion. Mais si notre Dieu est un grand Dieu, si nous le situons comme le Dieu qui est au-dessus de tout ce qui peut se nommer, si on le situe comme le seul vrai Dieu, et c'est ça la thématique, c'est ça le sens de ce verset, le seul, il n'y en a pas d'autre. Si on le situe comme un grand Dieu, et si on le regarde comme un grand Dieu capable de résoudre tous nos problèmes, capable de pourvoir à tous nos besoins, capable de solutionner tous nos problèmes, capable de nous conduire souverainement, alors ce Dieu sera un grand Dieu à nos yeux. Alors nous aurons des choses à faire avec lui. Alors notre engagement aura une portée différente. Comment vivre cette réalité? Comment intégrer cette idée d'un grand Dieu? Et comment vivre Dieu comme étant un grand Dieu, le seul et l'unique? Comment lui donner la première place et l'importance? Comment lui donner la priorité dans nos vies? La clé de tout cela, c'est d'être à son écoute. Écoute Israël. Pourquoi Dieu parle? Parce que écouter quelqu'un, c'est prêter attention à ce qu'il dit. Écouter quelqu'un, c'est donner de l'importance aux propos qu'il tient. Écouter quelqu'un, c'est se mettre dans la disposition de prendre en considération ce qu'il dit. Imaginez-vous quelqu'un qui vous parle et qui vous parle et qui vous parle. Il m'arrive parfois que ma femme me fasse cette remarque-là, mais je te parle. Ben, je dis oui, je t'écoute. Mais oui, mais tu m'écoutes, mais tu ne réagis pas. Comment puis-je savoir que tu m'écoutes? Je crois que les hommes ont parfois ce défaut-là. Les femmes savent très bien cette affaire-là. On écoute, mais on écoute vraiment. Hein. Mais c'est vrai que quand quelqu'un écoute, mais qu'il ne réagit pas, il y a des doutes qu'il écoute, n'est-ce pas? Écouter, c'est pencher l'oreille. C'est pencher l'oreille et montrer l'attention. Écouter, c'est montrer du respect pour celui qui parle. Alan Bloom, que vous connaissez, m'avait toujours impressionné par un truc. On est en discussion, il commence à parler. Il commence à parler. Dès que quelqu'un l'interrompt et commence à parler, Alain se tait. Il dit plus rien. Il croise les bras, il te regarde. Et alors une fois, je dis, Alain, pourquoi tu fais toujours comme ça? Il dit, parce que pour moi, écouter, c'est très important. Je parle, alors tout le monde m'écoute. Si personne ne m'écoute, je me tais. Comme ça, je leur montre que vous ne m'avez pas respecté. Vous ne m'avez pas respecté. Vous n'avez pas voulu prendre en considération ce que je suis en train de dire. Peu importe, que ce soit important ou pas, mais vous n'avez pas voulu prendre en considération ce que j'ai à dire. Écoutez, c'est aussi manifester le respect pour la personne qui prend la parole. Dans ce texte, Dieu demande au peuple de l'écouter. Donc de prendre en considération sa parole, de faire attention à ce qu'il dit, de prêter l'oreille à ce qu'il est en train de dire. Ce matin, peut-être, je voudrais vous poser juste la question. Où est-ce que vos oreilles sont les plus tendues? Qu'est-ce que vous écoutez le plus? Certains écoutent beaucoup la radio. Et de la radio, ils reçoivent plein de choses, peut-être qui les guident dans leur vie. Certains écoutent les amis, peut-être des personnes influentes dans leur vie, des parents, des aînés, des formateurs. Et ça influence leur vie, leurs décisions. Certains lisent dans les livres et trouvent dans certains bouquins de grands maîtres les pensées qui structurent leur façon de voir la vie. Et puis, dans cette génération où nous sommes, où la communication est devenue foisonnante, nous écoutons beaucoup. Je suis parfois surpris de la capacité des jeunes aujourd'hui à la fois ouvrir la télé, être sur leur smartphone là, et en même temps de mettre un fond de musique. Et ils font tout ça en même temps. Ils regardent la télé, ils répondent à des messages et ils écoutent un fond de musique. Alors ma question, c'est toujours, mais comment vous faites? Comment vous faites sans avoir mal à la tête? Comment faire? Écoutez, mes amis, c'est écouter une seule voix, une personne. Et une seule. Je sais pas quelle est notre écoute. Le Seigneur, aujourd'hui, nous dit, écoute. Apprends à m'écouter. Apprends à entendre ce que j'ai dit. Alors, je vais encore rester un peu dans ce texte. La question c'est, oui, bon, d'accord, qu'est-ce qui peut nous aider à écouter? Comment écouter? Qu'est-ce qui peut ici nous permettre d'avoir une écoute de Dieu? Et la réponse, elle est dans le texte, le verset 1. Tu peux reprendre. Je te fais travailler, hein, mais c'est bien. Hein. Il aime travailler, ça. Verset 1. Voici les commandements, les lois, les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, vous a commandé de vous enseigner. L'enseignement. Voilà un des endroits où on peut apprendre à écouter Dieu. Dieu parle à travers sa parole. Cette parole, nous la recevons à travers les enseignements. L'enseignement de la parole de Dieu est le lieu de l'écoute de Dieu à travers ce texte. Enseignement. Ce texte nous parle de l'enseignement de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est présentée sous la forme d'impératif, loi, ordonnance, commandement. C'est pas une parole qui nous est présentée sous l'angle de recommandation, suggestion, conseil, quelque chose comme, hein. Oui, certainement qu'il y a ces éléments qui rentrent en ligne de compte, mais l'impératif est important. L'impératif est important pour signaler qu'il ne s'agit pas de discuter l'enseignement. Il ne s'agit pas de discuter la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de dire, ouais, bon, ok, ça c'est noir, mais moi je vais mettre ça en ton demi-gris. Non, il s'agit de l'enseignement tel que Dieu nous l'a présenté. Il s'agit des choses comme Dieu le veut. Il s'agit de la volonté de Dieu et non pas notre volonté à nous. Vous avez remarqué une chose. Il y a deux choses qui m'ont frappé ici. C'est que directement, il est question de l'enseignement afin que vous le mettiez en pratique. Vous avez remarqué ça? L'enseignement, ça n'est pas des choses théoriques. Oui, d'accord. Il y a un aspect théorique. Mais l'enseignement a pour visée la pratique. Comment peut-on savoir qu'un élève a bien étudié, a bien appris? Il doit maîtriser les compétences. C'est-à-dire, il doit pouvoir mettre en pratique les données qui lui ont été enseignées. Il doit pouvoir appliquer cela dans des conditions où l'on peut vérifier s'il connaît ou pas. La connaissance, quand on dit en matière de compétences, elle doit toujours être pratique. L'enseignement est toujours pratique. Elle doit déboucher sur des actions concrètes. L'enseignement doit déboucher sur l'enseignement des actions concrètes, doit déboucher sur des attitudes et des comportements adéquats. Et remarquez une chose, le verset 3. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique. Mes amis, nous sommes responsables de la manière dont nous mettons en pratique l'enseignement. Ça ne dépend pas de l'autre. Personne ne peut dire, oui, mais moi j'ai compris l'enseignement. L'enseignement me demande, à travers l'enseignement, Dieu me demande de faire ceci ou cela, mais j'attends que le pasteur ou les anciens ou mon frère ou mon mari ou je ne sais pas qui commence et puis moi je ferai. Non. Il s'agit de prendre soin, de mettre toute l'énergie, de prêter toute l'attention et de mettre tout en œuvre pour que nous puissions mettre en pratique la parole de Dieu. Tu prendras soin. Nous sommes responsables de la façon dont nous mettons en pratique la parole de Dieu. Et faisons attention à cela. Parce que ma façon de mettre en pratique la parole de Dieu est une indication de mon attachement à Dieu. Si je mets en pratique la parole de Dieu en observant, en respectant, en suivant scrupuleusement ce que Dieu me demande, je démontre par là que vraiment c'est mon Dieu. Vraiment je suis attaché à lui. Prendre soin, ça veut dire aussi que mon enseignement, parce que vous savez que l'idée avec un enseignement, c'est que l'enseignement c'est quelque chose qui est transmissible. Je dois pouvoir recevoir quelque chose qui m'a été transmis. Mais que je peux aussi transmettre aussi à d'autres. Prendre soin de cela, c'est aussi prendre soin de la façon dont je reçois l'enseignement, afin que si c'est possible, je puisse aussi le transmettre à d'autres. Transmettre l'enseignement, c'est important. Vous savez, beaucoup de générations sont perdues parce que la transmission de l'enseignement est mauvaise. Beaucoup de choses se passent, nous commettons beaucoup d'erreurs dans nos vies parce que parfois, simplement, l'enseignement qui a été donné n'a pas été bien, on n'a pas bien pris soin de cela. On a négligé, on l'a pris nonchalamment. Souvent, il y a des enseignements où on nous dit, « je connais ça, mais je ne m'arrête pas vraiment pour considérer, pour m'interroger, pour dire ce qui m'est demandé là dans la parole de Dieu. Je vais faire quoi avec ça ?» Et puis, faire des bilans, des évaluations. Où est-ce que j'en suis ? J'ai découvert que cet enseignement m'a appris à ne plus mentir. Je ne vais plus mentir. Et puis, quelques temps après, je fais mon évaluation. Où en suis-je avec le mensonge ? Est-ce que je suis toujours quelqu'un qui ment ? Ou bien, gloire à Dieu, j'ai fait des progrès. Ou, oh mon Dieu, j'ai vraiment bien avancé là-dessus. Maintenant, ce n'est plus une question, un problème pour moi. L'enseignement, c'est pas seulement les choses que je ne dois pas faire, c'est aussi les choses que je dois faire. Mon engagement avec Dieu, mon service, est-il un service plus empreint d'amour, plus empreint de maîtrise de soi, plus empreint de volonté de donner la gloire à Dieu, axé sur Dieu et pas sur comment les gens me voient, etc. Ça fait partie des choses que je dois pouvoir évaluer. L'enseignement est toujours pratique, d'un côté. Et c'est à nous de prendre soin de la mettre en pratique. Et préciser juste une chose, c'est peut-être pas, quand on prolonge ce texte, on voit que cette pratique n'est pas seulement j'apprends, je mets en pratique, c'est véritablement je prolonge cette pratique-là à travers aussi ma famille, la façon dont j'engage ma famille à cela. Je dois toujours réfléchir. La parole qui m'a été enseignée, comment je la vis et comment je fais en sorte qu'autour de moi, les gens la comprennent, la connaissent, l'apprécient et la vivent, suivent mon exemple. Deuxième élément, deuxième remarque importante, l'enseignement doit aussi déboucher sur la crainte de Dieu, sur le respect profond de Dieu. Si l'enseignement qui m'est donné ne me fait qu'identifier à un Dieu qui est un copain avec lequel je peux discuter, avec lequel je peux m'entendre une fois, et puis tout me mésentendre avec lui, faire un peu comme je veux avec lui, alors il y a quelque chose que je n'ai pas compris. L'enseignement que je reçois doit pouvoir m'aider aussi à me dire, à me rendre compte de la grandeur de Dieu, et doit susciter le respect pour mon Dieu, doit susciter le désir que je puisse respecter sa volonté, que je puisse lui obéir, que je puisse faire ce qu'il me demande. Un enseignement qui ne s'arrête qu'à une connaissance pure, mais qui n'ajoute rien dans ma vie, dans le sens que ça change rien sur moi, c'est pas un enseignement. L'enseignement vise la connaissance, dans un sens plus général, le savoir-faire, mais la connaissance vise aussi le caractère. L'enseignement vise le caractère aussi, c'est-à-dire le savoir-être. L'enseignement doit pouvoir changer mon caractère devant Dieu, doit pouvoir susciter le respect, un tel respect à l'égard de Dieu, que ce respect transforme ma façon d'être pour que je devienne conforme à comment Dieu veut que je sois. Alors ce matin, je voudrais vraiment que nous soyons à l'écoute du Seigneur. Je vous l'invite à être à l'écoute du Seigneur à travers l'enseignement. L'enseignement qui est donné à l'Église par les études bibliques, je suis toujours surpris de voir le nombre des personnes qui ne viennent jamais à l'étude biblique. Or, les raisons sont nombreuses. Ceux qui ont des raisons valables et ceux qui n'ont pas de raison. Où avez-vous l'enseignement? Où recevez-vous l'enseignement? Ah, peut-être sur Top Chrétien, ça c'est le truc extraordinaire, ou bien enseignemoi.com, ou bien je ne sais pas très bien autre autre chose que, auquel les gens recourent. Mais l'enseignement de la parole de Dieu est importante. Et ce matin, à travers ce que vous recevez comme enseignement, lorsque vous écoutez, lorsque vous le recevez, lorsque vous-même vous apprenez, parce que l'enseignement, c'est pas simplement qu'il y ait un maître qui vous enseigne, vous pouvez aussi dire, Seigneur, enseigne-moi directement à travers ta parole. Vous ouvrez votre Bible et vous lisez vraiment avec la volonté d'apprendre. Parce que l'enseignement, c'est apprendre. C'est apprendre. Apprendre pas pour simplement savoir dans la tête. C'est apprendre pour mettre en pratique. C'est apprendre pour découvrir un grand Dieu pour lequel on veut vouer un grand respect. Peut-être, à travers, vous n'avez peut-être pas la possibilité d'aller à l'étude biblique, peut-être à travers la Bible, on peut ouvrir sa Bible et dire, Seigneur, enseigne-moi. Mais alors, soyons à l'écoute de Dieu. Parce qu'à travers l'enseignement, Dieu parle. Qu'est-ce qui se passe? Bon. À travers l'enseignement, oui, c'est toujours mon problème. Hein. Je bouge beaucoup. À travers l'enseignement, Dieu parle. Et c'est important que nous puissions apprendre à écouter Dieu dans l'enseignement. Être à l'écoute de Dieu, vous avez remarqué dans ce texte, entraîne toute une série de bénédictions. Entraîne une série de choses que l'on va expérimenter. Oui, je sais que très bien, on n'aime pas trop entendre que Dieu bénit. Hein, parce que nous aimons beaucoup entendre que c'est par nos propres efforts que nous avons tout ce qu'on a. Hein, on aime bien ça. C'est plus facile parce qu'alors on peut dire, Dieu, j'ai rien à voir avec toi. Hein, toi et moi, hein? Non. Mais Dieu bénit réellement. Dieu agit réellement dans les vies. Les chrétiens l'expérimentent. Que dit ce texte? Il dit que lorsque nous sommes à l'écoute de Dieu, lorsque nous sommes obéissants pour écouter ce que Dieu dit, alors nous allons avoir des jours prolongés, des jours de bonheur. Nous allons pouvoir vivre des jours où nous allons expérimenter du bien-être. Nous allons être heureux, verset 3, afin que tu sois heureux. Dieu va assurer une certaine abondance, que vous multipliez beaucoup, comme je te l'ai dit. Nous allons pouvoir accéder à la bénédiction de Dieu. Je ne vous demande pas d'écouter pour avoir les bénédictions. Comprenez-moi bien. On n'obéit pas à Dieu parce que Dieu, voyez, je vais faire 36 choses avec Dieu, je vais m'exercer spirituellement à faire des tas de trucs parce que Dieu va pouvoir agir. C'est pas un distributeur automatique, hein. C'est pas un bouton qu'on appuie pour obtenir ce qu'on veut. Mais nous savons que nous avons cela. Notre rôle n'est pas de nous arrêter à faire cela parce que, mais à agir d'abord comme ça en sachant que. Être à l'écoute de Dieu pour voir des jours heureux, des jours de bonheur, des jours d'abondance. Être à l'écoute de Dieu pour vivre en paix avec Dieu. Être dans le bien-être avec Dieu. Être heureux avec Dieu. Mais écouter Dieu sans l'aimer n'a aucun sens. C'est vrai, hein? Est-ce que vous êtes disposé à écouter quelqu'un que vous détestez? Répondez-moi. Oui? Vous détestez quelqu'un, mais vous l'écoutez quand même. Je dis, écoutez au bon sens du mot, hein, pas entendre, hein, mais écoutez dans le sens de prêter attention, donner de la valeur à ce qu'il dit. Quand on n'aime pas quelqu'un, quand quelqu'un nous est profondément indifférent, on l'écoute. C'est pas très important ce qu'il dit. Mais lorsque se construit une relation axée sur l'amour, sur l'amitié, alors ce que l'autre dit devient vraiment important, devient vraiment quelque chose que je prends à cœur. Et ce matin, c'est le sens de ce verset. Tu aimeras l'Éternel de toute ta force, toute ta pensée. Verset 5. Aimer Dieu, pas simplement l'aimer d'une manière qui soit superflue, qui soit banale, mais vraiment l'aimer. C'est quelque chose qui n'est pas toujours évident, pas quelque chose qui n'est pas toujours simple pour nous, mais c'est quelque chose que nous pouvons apprendre à développer. On peut apprendre à le développer. On peut demander à Dieu de nous aider à vraiment l'aimer. À vraiment l'aimer. Et on peut demander à Dieu de nous ouvrir les yeux, qu'à travers sa parole, nous puissions découvrir comment aimer Dieu, comment vivre de façon à dynamiser, à rendre plus profond cette relation, plus profonde cette relation d'amour. Mais pour cela, si nous avons déjà à cœur de faire cela, le mouvement vient de notre cœur. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Vous savez, je peux avoir les commandements dans la tête, mais pas dans le cœur. Si je les ai dans la tête, c'est une connaissance. Je sais qu'il m'est interdit de faire ceci. La connaissance que nous avons du code de la route est une connaissance que nous avons dans la tête. On sait qu'on doit tourner à gauche, on doit respecter la priorité, on doit s'arrêter devant un stop, etc. C'est une connaissance dans notre tête. Mais lorsque nous abordons ça dans notre cœur, ça veut dire que ça fait partie de notre vie. Ça devient quelque chose qui concerne notre vie. Notre vie commence à dépendre de ça. Ça devient quelque chose qui dirige notre vie. Je vais terminer ce matin avec simplement ce texte de Jean chapitre 10. Et évidemment, nous sommes aujourd'hui appelés à écouter Jésus. Nous écoutons Dieu à travers Jésus. Et Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il la fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Écoutez Dieu. Être à l'écoute de Dieu implique d'être la brebis de Dieu. Brebis de Dieu, enfant de Dieu, né de nouveau. Parce que c'est de l'intérieur qu'on entend la voix de Dieu. On s'habitue à sa voix. Et ce matin, pour ceux qui sont nés de nouveau parmi vous, qui sont sauvés, qui ont compris le salut, qui ont donné leur vie à Christ, sachez-le, vous pouvez être à l'écoute du Seigneur parce qu'il parle avec vous. Vous pouvez entendre sa voix. Et en même temps, ce texte nous sous-entend l'idée que nous devons apprendre à nous habituer à la voix de Dieu, à faire de la voix de Dieu une voix familière dans nos vies. Pour cela, il faut la pratique de la vie chrétienne en général. Il faut la priorité à Dieu. Il faut passer du temps avec lui. Une brebis passe le temps avec son berger. Il peut arriver qu'un chrétien entende aussi les voix des étrangers et ne puisse même plus les discerner. Mais ce texte nous invite à véritablement écouter la voix du Seigneur. Et vous avez remarqué, ceux qui sont à Christ, qui lui appartiennent, il prend soin d'eux. Il s'occupe d'eux. Il les emmène pour les faire paître, pour leur donner des soins, etc. Il marche devant les brebis. Et ce matin, je voulais vraiment que nous prenions l'engagement d'être à l'écoute du Seigneur, principalement à travers sa parole. Soyons, comme j'ai toujours dit souvent, enseignables. Laissons-nous enseigner par la parole de Dieu. N'allons pas lire la Bible juste pour connaître. Mais allons lire pour trouver des guides pour la façon dont on doit vivre, pour notre comportement, pour notre attitude, pour les solutions à nos problèmes. Et que cela nous aide à marcher pour Dieu tout au long de cette année. Être à l'écoute de Dieu, c'est aussi simplement à travers les circonstances. On a parlé que Dieu était maître des temps et des circonstances. Pouvoir dire, Seigneur, où es-tu dans mes épreuves? Où es-tu dans ma maladie? Où es-tu dans mon deuil? Où es-tu dans ma souffrance? Mais où es-tu dans mon bonheur? Où es-tu dans ma joie? Où es-tu dans ma paix? Être aussi à l'écoute de Dieu à travers ce qui se passe autour de nous. C'est cela, être à l'écoute. Et lorsque je commence à être à l'écoute, vous avez vu, il y a des bénédictions, mais il y a surtout aussi le privilège de marcher avec Dieu et de marcher d'une manière qui plaise à Dieu. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à être à l'écoute de ta parole, à une écoute qui n'est pas simplement le fait d'entendre, mais de faire attention, de tenir compte et peut-être même de pouvoir intégrer cela. Seigneur, aide-nous à être de cette écoute obéissante, capable d'écouter pour agir, pour faire ce qui nous est demandé, de reconnaître à travers notre action la souveraineté qui vient de toi, de reconnaître à travers notre action que tu es le seul vrai Dieu, le seul Dieu pour nous, de reconnaître que tu es notre seul rempart, notre seul refuge. Accorde-nous cette grâce de cheminer ainsi durant toute cette année, parce que nous savons que toi déjà tu penches l'oreille pour nous écouter. Aide-nous aussi à t'écouter, que nous soyons des brebis pour le bon berger. Au nom de Jésus. Amen.